Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Malaise, perte de connaissance, crise. On distingue plusieurs situations cliniques. D'un côté, les syncopes, les crises d'épilepsie, les crises cardiaques. Et de l'autre, des affections d'origine psychique, névrose, crise d'hystérie collective, trans. Des phénomènes qui touchent différentes régions du monde, différents groupes de populations, comme les séries d'évanouissements de lycéennes en Afrique subsaharienne ces dernières années. Hurlements, crises de larmes, paralysie, trans à tour de rôle ou simultanément, ces troubles du comportement qui isolent un groupe de la réalité sont souvent perçus comme des manifestations d'emprise mystique par une partie de l'opinion et sont souvent matière à toutes sortes d'interprétations socio-culturelles. Ces malaises, ces crises sont pourtant révélateurs d'angoisse et du rôle important des facteurs psychiques qui peuvent agir sur le corps. Néanmoins, les fausses croyances ou le manque d'informations peuvent avoir des conséquences directes et parfois graves sur la prise en charge et le traitement des personnes atteintes. Alors comment définir ces malaises? Comment se manifestent ces crises collectives et peut-on toujours en expliquer les causes? Est-ce qu'il existe des contextes favorables à leur émergence? Quelle prévention et lutte contre les mauvaises interprétations? Aujourd'hui, dans Priorité Santé, coup de projecteur sur les névroses collectives, une émission en partenariat avec Votre Santé Magazine. Trans, malaise et crise, c'est le dossier du numéro 17 de Votre Santé Magazine, magazine panafricain d'information sur la santé. Et pour en parler, en studio avec nous aujourd'hui, docteur Alain Eppelbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, anthropologue retraité du CNRS et du Musée de l'Homme à Paris. Également en ligne avec nous, docteur Patrick Clairvoy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, ancien professeur de psychiatrie de l'école Val-de-Grâce et auteur de l'ouvrage « Les pouvoirs de l'esprit sur le corps » aux éditions Odile Jacob. Nous retrouverons tout à l'heure en direct du Niger le docteur Awa Sidibé, chef du service de neurologie à Niamey. Et en fin d'émission, la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, notre page Facebook est ouverte et nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Amadou Gallo Diop, bonjour. Vous êtes neurologue et président du comité scientifique du magazine Votre Santé, un magazine panafricain d'information sur la santé qui est basé à Dakar, au Sénégal. Professeur Amadou Gallo Diop, le dossier de ce numéro 17 est consacré aux malaises, pertes de connaissances et crises collectives. Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet?
Mais nous avons remarqué depuis quelques années que chaque fois qu'il y a une mort brutale, un événement individuel ou collectif, les populations africaines font elles-mêmes un diagnostic en disant que c'est un malaise, c'est un AVC, c'est des crises. Et dans ces termes qui sont fourre-tout, il y a un certain nombre d'éléments médicaux qui méritait un éclairage de la part de spécialistes de divers domaines.
Et alors spécifiquement, de quelle crise parle-t-on?
Il faut qu'on éclaire les gens sur le fait que tout n'est pas crise grave, mortelle et autre. Il y a un certain nombre de raisons qui sont d'origine cérébrale. On peut citer par exemple la crise d'épilepsie. Mais il y a d'autres crises qui peuvent être cérébrales, mais non organiques ou agressives, qui sont de l'ordre du psychologique. Ils peuvent être des crises d'hystérie, des crises d'angoisse, mais avec des manifestations spectaculaires qui peuvent les faire confondre à de l'épilepsie, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et vous avez un autre lot de malaises ou de crises qui sont d'origine cardiovasculaire, c'est-à-dire que soit le cœur s'emballe ou le sang n'arrive pas suffisamment au niveau de la tête et on aura une chute plus ou moins accompagnée aussi de phénomènes spectaculaires qui peuvent faire peur. Donc il faut bien qu'on fasse la part de ces choses-là, qu'on en informe les gens pour que tout ne mène pas à des affolements, soit de la famille, soit de collectivités comme les écoles, les collèges, ou des regroupements de personnes.
Merci beaucoup, professeur Amadou Gallo-Diop. Je rappelle que vous êtes neurologue et président du comité scientifique du magazine Votre Santé.
Merci.
En studio, docteur Alain Epelboin, tout d'abord, d'un point de vue médical, quand on parle de ces malaises, il faut expliquer qu'il en existe donc plusieurs sortes.
Oui, je crois que le professeur Amadou Gallo-Diop a parfaitement décrit. Je crois qu'on pourrait dire, en gros, en éliminant des intoxications collectives, que lorsque c'est un individu, la probabilité que ce soit une maladie grave est plus importante, mais lorsqu'il s'agit d'un syndrome collectif qui contamine différentes personnes, là, on est dans des processus psychogènes dont la gravité est certes importante vu du point de vue des jeunes gens qui subissent cela, mais qui n'a même pas de conséquences sur l'avenir de ces personnes.
Et par quoi est-ce qu'un malaise se traduit ?
Tout dépend du type de malaise. Là, un malaise, il peut y avoir un malaise vagal avec une sensation de sueur, de chaleur. Ça peut être l'infarctus du myocarde. Ça peut être l'accident vasculaire cérébral. Là, on peut énumérer toutes les maladies. Chacune a sa symptomatologie particulière, son contexte, les signes cliniques qui lui sont associés. Et c'est comme ça que les soignants vont faire des diagnostics.
Et alors justement, est-ce qu'il y a des signes annonciateurs ?
Ça dépend. Si on reprend certaines formes d'épilepsie, vous avez des signes annonciateurs qui, par exemple, sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans des séquences d'hystérie collective avec des odeurs, des voix, des bruits, mais qui sont en rapport avec des atteintes neurologiques extrêmement précises. Les signes annonciateurs, ça va être aussi une hypertension grave non contrôlée avec des maux de tête. Ça va être des pathologies diabétiques qui n'auront pas été soignés correctement et avec des pertes de connaissances liées à des hypos ou à des hyperglycémies. Là, on peut énumérer toutes les pathologies et montrer qu'il y a des signes qui sont associés et qui permettent à des connaisseurs d'anticiper, en tout cas de prévoir le risque et d'empêcher que la crise n'apparaisse.
Et est-ce qu'on peut faire une différence entre un malaise et une crise ?
Là, il faudrait que je consulte le Robert ou un dictionnaire, mais vous savez, tout dépend de qui emploie ces termes. Les mêmes termes ont des sens différents selon qu'ils sont employés entre guillemets par des savants qui ont un vocabulaire très spécialisé ou par des non-savants. Et puis ça dépend des milieux, ça dépend des époques. Donc non, on ne va pas faire de différence très importante entre ces termes.
Mais généralement, d'un point de vue médical, quelle réaction, docteur Alain Epelboin, est-ce qu'il faut avoir face à un malaise ou à une crise ?
Là, on a des consignes extrêmement particulières qu'on apprend une perte de connaissance. Donc, en gros, moi, je différencierais la perte de connaissance ou le traumatisme. Et là, il y a des consignes que connaissent très bien les gens qui sont formés à la sécurité, décubitus latéral, empêcher les vomissements, éventuellement réhydrater, donner un peu de sucre pour vérifier que c'est pas une histoire glycémique. Là, il y a toute
allonger
une série de
la
comportements.
Personne.
Manger la personne, là, mais vous savez, n'oubliez pas que moi je suis anthropologue, j'ai bien évidemment des connaissances médicales, mais ma pratique est quand même un peu loin derrière moi.
En ligne également avec nous, docteur Patrick Clairvoy, parmi ces crises, il en existe d'origine psychologique et mentale, par exemple les crises d'hystérie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, le mot hystérie est un mot vieillot, c'est un mot qui nous vient des racines grecques de l'utérus, donc des crises comportées plutôt du côté des femmes, et je crois qu'il faut oublier ce terme-là. Si vous le permettez, vous avez voulu qu'on distingue malaise et crise. Moi, je dirais ceci, le malaise est une situation qui peut se prolonger, qui peut durer et rester en l'état. La crise, pour le médecin, c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est une rupture. Tout d'un coup, quelque chose se produit, le sujet n'est plus dans son état normal. La crise a une durée limitée, en général brève, surtout les crises psychogènes. Et puis, la surprise est là. Après la crise, parfois, le patient est mieux. Et si vous le permettez, si vous me donnez quelques minutes, je vous raconte une histoire qui s'est produite dans le cabinet où je travaille mercredi dernier et qui va vous montrer que les crises ne sont pas l'apanage plus d'une culture que d'une autre. Ce qui dépend de la culture, c'est la façon dont on regarde les crises. Nous avons dans notre cabinet une psychothérapeute qui s'appelle Maryse Le Goff, qui reçoit un patient pour une séance d'hypnose pour traiter un état anxieux. Alors voilà, on va dire que le malaise, c'est l'état anxieux dans lequel est ce patient, un patient qui a une activité professionnelle, qui est en difficulté avec les banques, qui a une anxiété qu'on peut comprendre pour faire face à ses exigences financières. Elle commence une séance d'hypnose. Et là se produit l'inattendu, c'est-à-dire la crise. Dès la fermeture des yeux, pendant la séance d'hypnose, donc l'état d'hypnose se met en place, et rapidement, le patient se sent mieux, il y a même un sourire sur son visage qui indique qu'il est apaisé. Puis, petit à petit, c'est là que la crise commence, les mains, puis les pieds, se mettent à s'agiter. Dans un premier temps, on a l'impression que c'est quelqu'un qui joue de la batterie ou qui dirige un orchestre avec les bras, et puis ses pieds commencent à taper le sol, et ça fait quand même du bruit dans le cabinet médical, et ça perturbe les collègues. Le patient demande « Est-ce que c'est normal ?» La psychothérapeute dit « Oui, mais c'est assez inhabituel. » Et elle demande au patient « Est-ce que vous sentez bien ?» Donc notez bien que pendant toute la crise motrice, le patient garde le contact avec la psychothérapeute. Il dit « Oui, je vais bien. » Et donc la patiente lui dit « Eh bien, allez jusqu'au bout. » Et pendant quelques minutes, le patient s'est comme ça agité avec sa crise, avec les bras qui se lèvent en l'air, les jambes qui décollent au niveau du sol, tous ces mouvements. Puis ça s'apaise progressivement, le patient est toujours souriant, et visiblement cette expérience est pour lui très agréable. Et comme venu au début de l'induction hypnotique, la thérapeute lui dit « Voilà, on peut compter maintenant de 1 à 5 et vous sortez de l'hypnose. » Et le patient sort finalement. Et il se sent bizarre, mais beaucoup mieux. La psychothérapeute, donc Maryse Le Goff, lui envoie un mail le lendemain pour lui dire « Mais comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Et le patient lui répond « Écoutez, hier, je n'ai pas fait le moonwalk. Ce n'était pas loin. Les sensations sont bonnes. J'ai de bonnes sensations comme je respire. Et comme je respire régulièrement, je me sens bien. Merci beaucoup. » Donc, vous voyez comment une crise, une séquence brutale, assez inattendue quand même, a pu provoquer chez ce patient une résolution de son malaise.
Et alors, comment se traduisent ces crises d'hystérie, docteur Patrick Clairvoy ?
Alors, si vous voulez bien, on enlève le mot hystérie, encore une fois. Et si vous voulez, même une articulation entre le psychisme et le corps. De toute façon, c'est une hérésie de vouloir séparer l'un et l'autre, puisque il n'y a pas d'espace psychique, d'activité psychique, sans qu'il y ait un support corporel. Et donc le psychisme s'enracine dans le corps. Et par un travail sur l'appareil psychique, par exemple sur le niveau de conscience, comme dans l'hypnose, la séance que je vous ai racontée, quelque chose va s'exprimer par le corps et quelque chose va se guérir. Vous savez, il y a l'idée très ancienne que c'est le corps qui se guérit lui-même et que le thérapeute n'est que celui qui va apporter les moyens pour que le corps puisse trouver le chemin de la résolution de l'état de mal-être dans lequel il est. Et il n'est pas, à mon sens, de guérison où il n'y ait pas un travail psychique qui accompagne le travail du corps.
Et en France, à quand remonte l'histoire de ces crises ?
D'abord, c'est très très ancien. Je veux dire, même avant la France, c'était la Gaule, et il y avait des druides. Enfin, quand on fait, il y a un très bel ouvrage qui s'appelle « À la découverte de l'inconscient » de Henri Hélène Berger, qui est un psychiatre qui était suisse au départ, qui a beaucoup travaillé au Canada, mais qui a fait ses études en France, en même temps que, par exemple, Jacques Lacan, Henri Hay, qui était le père de la psychiatrie en France. Et il montre que depuis la nuit des temps, l'homme sait utiliser cette activité de l'inconscient, le sommeil, les rêves, les crises, les transes, pour comprendre un peu comment fonctionne son espace psychique et aussi se guérir. Alors pendant longtemps, on a pu regarder ça comme étant quelque chose de bien. C'était les mages, c'était les guérisseurs, etc. Puis il y a eu des époques où on a regardé ça avec un regard très négatif, c'était la sorcellerie. On a fait beaucoup de misère aux sorcières. c'était des pratiques dites diaboliques ou hérétiques. L'Église a beaucoup lutté contre ça, il faut le dire. Mais, par exemple, c'est revenu sous le regard de la science au XIXe siècle avec Pierre Janet, avec Freud, avec Charcot en France.
Justement, vous évoquez dans votre ouvrage les travaux de Charcot qui s'est penché sur l'étude des exorcismes, sur les miracles et les guérisons spectaculaires.
Oui, il n'osait même pas nommer ça du nom français. Il appelait ça en anglais « the faith healing », ça veut dire « la foi qui guérit ». Alors, quand vous prenez les ouvrages, par exemple, il y a le docteur Boissary, qui est le médecin, qui observait tous les jours des guérisons à Lourdes. Il s'insurgeait contre cette foi qui guérit, parce qu'il disait « on dit que c'est la suggestion ». Ça, c'était la grande école de la Salpêtrière au XIXe siècle. Il disait que tout ça, c'est de la suggestion. Si je dis, c'est la vulgarisation de ça, c'était la méthode Coué en France. Si vous pensez régulièrement que vous allez bien, eh ben, effectivement, vous allez aller bien. Mais aujourd'hui, ça nous revient sous cette théorie de la pensée positive. Et en permanence, notre activité psychique nourrit notre corps pour l'aider à aller bien.
Donc est-ce que la foi peut être un catalyseur? Est-ce qu'il y a un effet placebo du mystique ou est-ce qu'à un moment, l'état mental domine l'état physique?
Alors,
on vous entend mal, docteur Clairvoy.
Oui, l'effet placebo est un réel effet scientifique. C'est-à-dire que quand on fait une imagerie cérébrale des patients sous placebo, il y a une activité cérébrale propre au placebo. Ça veut dire que l'appareil psychique a une puissance suffisante pour opérer des opérations sur le corps. Et donc, bien évidemment, la foi est un très important catalyseur du travail psychique de guérison sur le corps. Et toutes les religions, toutes les pratiques religieuses ou rituelles ont une activité de guérison.
Docteur Clairvoy, merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Je rappelle que vous êtes médecin, ancien professeur de psychiatrie à l'école du Val-de-Grâce et auteur de l'ouvrage « Les pouvoirs de l'esprit sur le corps » aux éditions Odile Jacob. Docteur Eppelbon, est-ce que vous voulez réagir à ce qu'on vient d'entendre ?
Oh ben, le docteur Patrick Clairvoy a dit plein de choses intéressantes. Ces phénomènes collectifs, si vous voulez, où les médecins ne retrouvent pas de cause précise, sont omniprésents dans toutes les sociétés. Des malaises attribués, par exemple, à des ondes peuvent être considérés d'un certain point de vue comme relevant des mêmes types de processus que les malaises des jeunes filles qui elles, vont tomber en transe. Mais si vous voulez, je dirais que là, on est dans un débat vieux comme le monde entre les tenants de pouvoir mystique et des gens qui sont époustouflés par les ressources de la psyché humaine. Ce que découvre, par exemple, ce qu'on appelle les ethnopsychiatres, c'est-à-dire qui utilisent les croyances, les représentations de leurs patients pour agir sur les mots, et que en mobilisant les ressources internes d'une personne, en mobilisant ses croyances, on obtient des résultats absolument extraordinaires, de type miraculeux parfois, indépendamment d'une mobilisation de principes religieux ou mystiques.
Alors, est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple récemment d'une série de phénomènes qui a attiré l'attention en Afrique subsaharienne ? C'est celui des psychoses collectives dans les collèges et les lycées.
Oui, alors là, c'est un phénomène, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un phénomène très ancien. Dans les années 69 au Sénégal, donc après, dans des périodes très agitées, il suffisait, me raconter mon ami Babacar Diouf, qu'une règle tombe dans une école pour immédiatement une panique. Ce mot panique, il faut bien le retenir, saisissait les élèves qui se mettaient à crier aux djinns qui apparaissaient dans la salle et tout le monde sortait par les fenêtres, par les portes. Donc, chaque fois qu'il y a des... systématiquement, en Afrique comme autrefois aussi en Europe, comme actuellement en Guyane, on s'aperçoit que ça touche des jeunes gens dans des sociétés où Ils subissent, on va dire, une certaine oppression par leurs aînés, des cadres coercitifs où les jeunes n'ont pas de lieu d'expression, où les jeunes doivent se taire devant les aînés, où les jeunes n'ont pas d'avenir professionnel, où les jeunes ne sont pas considérés. Et en fait, vu d'un point de vue psychosociologique, si vous voulez, ces crises sont beaucoup plus les révélateurs de crises de la société où ces jeunes expriment le malaise de la société et leur propre malaise.
Crise de la modernité même, j'ai lu.
De la modernité, oui, mais avec un paradoxe, c'est que dans un système à dominante, pour le Sénégal musulmane, au Cameroun à dominante chrétienne, des vieux génies réapparaissent. On a même quelque chose de paradoxal.
C'est ça, souvent les jeunes filles qui se mettent à pleurer, qui angoissent, qui crient et qui convulsent même
oui,
dans les établissements,
en fait,
parlent de génie. Elles sont
poursuivies. Parce que, en fait, lorsqu'elles tombent, lorsque ces jeunes filles tombent, on dit qu'elles voient cet univers non visible, peuplé de djinns, d'esprits, de génies, de sorciers, de tout ce qu'on veut. De la même façon que si je vous dis qu'il y a un microbe qui est en train de passer dans l'air entre nous, vous n'allez pas le mettre en doute, même si vous ne le voyez pas. Et donc, pour les gens, c'est considéré comme la preuve de l'existence de ces génies. Mais, par exemple, ce que je voulais dire, par exemple, en Guyane, les jeunes filles qui sont plutôt de culture amérindienne, l'esprit qui les fait tomber n'est pas un esprit amérindien, c'est un esprit d'une culture voisine. Donc on a ce phénomène que très souvent, si vous voulez, ce sont des esprits anciens. Et puis on a eu dans les années, je crois, 2003-2010, des épidémies terribles au Cameroun, qui, avec des jeunes filles qui tombaient en transe, qui faisaient des révélations de voyance lorsqu'elles étaient tombées en transe, et qui accusaient, par exemple, le directeur de l'école ou le président de l'université et d'être sorcier et de vouloir les tuer. Et l'après-midi, vous avez une foule en colère qui venait pour détruire et ravager. Le tout dans un régime politique où l'expression individuelle, l'expression politique oppositionnelle n'est pas facile non plus.
Mais alors physiologiquement, qu'est-ce qui se passe dans le corps pour qu'on en arrive à s'évanouir, à convulser ?
Ben, si vous voulez, convulser c'est autre chose. Non. Convulser, c'est quelque chose de très précis lié à une saturation, à une espèce de court-circuit neurologique. Vous savez, c'est le même phénomène qu'on a dans la transe, où des individus, où on va remarquer qu'ils vont avoir des techniques respiratoires qui vont participer à l'induction d'un état modifié de conscience. Quand vous respirez de cette façon, vous modifiez le gaz carbonique et l'oxygène qui est dans votre sang et vous induisez des états de conscience modifiés où vous allez passer en transe. Mais pour donner une image qui ressemble aussi au phénomène d'un acteur de théâtre qui, au moment où il joue son personnage, n'est plus lui-même. Il est complètement investi par ses personnages. Et donc, ces jeunes filles vont tomber, vont être dans un état modifié de conscience, un peu celui que nous avons lorsque nous nous endormons et que nous faisons des grandes respirations, des mouvements des bras par exemple, et puis que nous passons petit à petit dans un état où nous pensons que nous sommes éveillés, alors qu'en fait nous sommes déjà endormis et où on va imaginer des choses, on va construire un univers, on va pouvoir mettre des couleurs, on va pouvoir mettre des personnages, mais le moment où on va raisonner, on va percevoir l'extérieur, c'est aussi un signe clinique. En sémiologie africaine, au petit matin, une personne qui vient, la sensation d'une personne qui vous verse du chaud, du froid, et qui vient, vous êtes immobile. Vous êtes aussi dans un état de rêve éveillé. Et si vous, voyez, je fais comme un déclic hypnotique pour sortir, si vous ne sortez pas de cet état, vous allez vous endormir, oublier. Nous avons tous aussi connu cet état de rêve éveillé lorsque nous étions petits, et qu'on avait envie de faire pipi, et qu'on se laissait aller, et qu'on se retrouvait avec le lit trempé, et puis nous avons appris petit à petit à sortir de cet état de rêve éveillé où on faisait pipi avec beaucoup de plaisir, pour se retenir et avoir le temps d'aller au cabinet.
Alors, pour reprendre l'exemple des jeunes filles, des jeunes lycéennes, est-ce que les jeunes filles sont essentiellement concernées et pourquoi ?
Oui, mais là, vous savez, alors le docteur Clairvoy a tout 100% raison en disant que le mot hystérie est extrêmement dangereux parce que justement, il voudrait définir que ces phénomènes sont uniquement féminins. Or, il n'y a pas de femmes de ce type-là sans spectateurs. Et dans les lycées, vous avez les jeunes filles qui tombent, mais vous avez les jeunes gens qui participent, vous avez les jeunes gens qui vont transporter. Il y a eu quelques cas de jeunes gens, de jeunes garçons qui ont pu tomber, mais dans la construction du genre, dans les jeux de rôle qui sont attribués aux garçons ou aux filles, c'est aux jeunes filles de tomber, si j'ose dire, et c'est aux garçons de les assister, mais l'un ne va pas sans l'autre. De la même façon que lorsqu'on parle d'hystérie dans un couple, et une fois de plus, le mot hystérie est extrêmement dangereux, avec des symptômes où quand l'un va bien, l'autre ne va pas bien, et on est toujours dans des phénomènes, on est toujours dans des phénomènes à plusieurs.
Et d'après vos recherches, docteur Eppelboin, comment se manifestent donc ces crises en Afrique notamment, et comment l'expliquer?
L'explication, pour moi, la manifestation, donc nous l'avons vu, avec des symptômes divers, mais en gros, on tombe, on crie, on s'agite avec des mouvements de où on s'agite sur le sol, mais un petit peu comme dans les crises de possession mystiques, où il y a un contrôle quand même sur l'écartement de l'entrejambe et la vision et de certaines pudeurs qui va rester. Ou s'il y a un dépassement, il y a une collègue qui va venir à ce moment-là voiler la pudeur. Et puis, en fait, ça peut se propager à un nombre plus ou moins important d'élèves, ça peut durer un certain temps, mais une fois que la crise est terminée, elle est terminée. Et d'ailleurs, on le voit bien à chaque fois, on mobilise des médecins, les services d'urgence, ça n'a strictement aucun intérêt.
Personne n'arrive à donner d'explication.
Mais si, l'explication, c'est l'explication qu'a donnée le docteur Clairvoyt, c'est-à-dire les interrelations entre le corps et l'esprit. On serait en système mystique, on parlerait de l'âme ou on parlerait d'autre chose, et qui effectivement peuvent jouer dans un sens de provoquer des maux ou au contraire de les soulager.
Et est-ce qu'on parle de rupture avec la réalité? Qu'est-ce que ça signifie?
Tout dépend de la réalité dont on parle. C'était ce que je disais tout à l'heure, à partir de ces états modifiés de conscience induits par des techniques respiratoires, des techniques où on secoue la tête et donc on mobilise l'oreille interne. Une fois qu'on est dans ce type d'état, si vous voulez, on est à la fois dans la réalité, c'est-à-dire on perçoit tout, et en même temps, c'est comme s'il y avait un autre univers, une autre dimension qui venait se superposer à la dimension habituelle.
Et alors vous, comment vous pourriez différencier l'état de transe d'un côté et les syndromes d'hystérie ou de crise, on parle plutôt de crise collective, de l'autre?
Ah, moi je fais pas une distinction je ne fais pas de distinction très importante entre les processus de transe qui sont des transes contrôlées socialement, où on va chez un chef de culte qui lui-même a la capacité de tomber en transe pour communiquer avec les esprits, et où les jeunes filles, par exemple des jeunes filles ou des jeunes gens, ou des personnes qui viennent, qui tombent justement, où le diagnostic a été opéré et qui sont dans une transe sauvage non contrôlée, vont être petit à petit rééduquées, et souvent à terme, ces mêmes personnes vont devenir elles-mêmes voyants et thérapeutes.
Donc d'un côté, on peut quand même évoquer les facteurs psychologiques pour les crises, et de l'autre, le contexte plutôt social et culturel pour la transe, c'est ça?
Pour les crises collectives, de perte de connaissances collectives, oui, là, on est dans des processus réactionnels de sociaux, si vous voulez, où l'individu est l'expression d'un mal-être collectif, et pas sur lequel, bien évidemment, vient se rajouter son propre mal-être, mais qui est un processus collectif. Dans les phénomènes de transe contrôlés socialement, on est dans une forme d'expression de la communication d'une société avec le monde non visible, qui est codifié, qui a ses règles, qui est combattu éventuellement par les religions annoncées en considérant que ce sont des formes diaboliques. Ça, c'est une autre histoire. Mais voilà en gros comment je résumerai le propos.
Et est-ce qu'il existe des contextes favorables à l'émergence de ces crises collectives? Est-ce que le contexte social et culturel peut avoir de l'influence?
Absolument. Les crises surviennent toujours dans des contextes de misère, de troubles sociaux. Et j'insiste quand même beaucoup dans des contextes avec des sociétés, des régimes politiques qui ne laissent pas l'expression, on dirait ici démocratique, une expression libre de ces jeunes gens. Et j'insiste beaucoup, mais que le traitement de fond de ces crises en milieu lycéen et studentin, c'est une prise en considération des revendications sous-jacentes. L'avenir, les diplômes,
l'angoisse.
La qualité d'enseignement, l'angoisse face à l'avenir, des parents dogmatiques qui ne sont pas dans la même modernité que les enfants, enfin leurs enfants. Oui, le contexte est absolument déterminant.
Vous restez avec nous, docteur Epelboin. Tout de suite, je vous propose de prendre la direction du Niger. Et on retrouve le docteur Awa Sidibé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de neurologie à Niamey, docteur Sidibé. Oui. Combien de neurologues êtes-vous au Niger ?
Pardon ?
Combien de neurologues êtes-vous au Niger ?
On est 8 neurologues, mais actuellement 6 sur le territoire nigérien.
Et répartis plutôt sur tout le territoire ou concentrés à Niamey ?
Non, il y a un dans une autre région du Niger, Maradi, et les autres sont à Niamey.
Et pour quel type de crise les patients viennent vous voir ?
Habituellement, c'est surtout pour des crises d'épilepsie. Parce que quand la personne fait son malaise, il vient aux urgences. Bon, là, le médecin essaie de voir dans quel registre mettre ses malaises. Est-ce que c'est une syncope ou une hypotonie ? Est-ce que c'est une crise d'épilepsie généralisée tonico-clonique ? Ou bien c'est une crise, une pseudo-crise ou des crises névrotiques. Souvent, quand il pose déjà le diagnostic d'une crise d'épilepsie, souvent parce que c'est la forme la plus spectaculaire et celle qui est facilement identifiable. Donc, pour ce genre de cas, il nous réfère les malades en consultation pour qu'on puisse les voir et puis poser un diagnostic.
Et est-ce que les patients viennent vous voir d'eux-mêmes ?
Oui, certains, ils viennent nous voir d'eux-mêmes. D'autres, c'est juste d'oreille à bouche. J'ai un tout petit comité où des patients font leurs témoignages, ils racontent leur vécu après plusieurs séances d'ergotisme. Chez les traduits praticiens, ils se rendent compte en réalité que ce n'est pas quelque chose de mystique. Donc, dans ce cas, souvent, eux-mêmes, ils viennent en consultation, c'est surtout de bouche à oreille, ils apprennent. Ou bien, c'est quand ils font une crise dans la rue ou dans les écoles, en ce moment, et on les amène à l'hôpital.
Alors justement, est-ce qu'il y a beaucoup de fausses croyances autour des malaises et des crises au Niger ?
Ah si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les patients, ils disent, j'ai le sétan, j'ai le djinn avec moi. Donc, on essaie de leur poser des questions, on fait un interrogatoire vraiment policier. Et à ce moment, on arrive à avoir le type de crise et à typer les crises.
Et est-ce que vous arrivez à... Est-ce que vous constatez des causes particulières ou un diagnostic en particulier ?
Pardon ?
Est-ce que vous constatez des causes particulières ?
Oui, souvent, ils rapportent qu'ils ont des hallucinations. Ils voient des objets qu'on n'arrive pas à décrire. Des fois, c'est des illusions. Donc, il y a toujours des petits mots qui reviennent que les patients rapportent d'eux-mêmes.
Et donc, dans ces cas-là, quels sont les examens que vous conseillez ?
Bon, tout d'abord, on fait l'électroencéphalographie. Et pouvoir, non seulement ça nous permet de poser le diagnostic positif d'une épilepsie, et aussi ça nous donne aussi une idée sur le pronostic de la maladie épileptique s'il y en a chez le patient.
Et est-ce que ces soins sont accessibles à tous ?
Oui, accessibles, parce que l'électroencéphalographie elle fait partie de la gratuité, donc pour les enfants de 0 à 5 ans, ils ne payent pas. Donc pour les patients vont payer pour les enfants au-delà de 5 ans. Et ça fait à peu près 15 euros dans les structures publiques.
Et dans ces cas-là, donc, docteur Sidibé, quels traitements sont disponibles au Niger ?
Oh, on a pas mal d'antiépileptiques. On a du phénobarbital. On a du valproate de sodium. On a le diazépam. Et c'est surtout les antiépileptiques de dernière génération qui posent un peu problème, parce que là, il faut des commandes spéciales. Et ce n'est pas disponible dans toutes les pharmacies.
Et pour revenir sur les fausses croyances autour justement de ces malaises et de ces crises, est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est mise en place au Niger ?
Non, parce que Une structure, bon, en fait, là, chaque médecin essaie de faire avec les moyens du bord. Moi, c'est surtout une patiente, en fait, qui a vécu ça. Elle était dans un village chez un traditionnel. Elle a passé plus de 3 mois là-bas. Et un bon jour, elle dit, bon, avec tout ça, je continue de faire les crises. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Donc là, elle avait vu un de nos prédicateurs. Il l'a soignée. Elle est déclarée guérie. Et aujourd'hui, elle a sa fille qui est épileptique. Et moi, j'ai reçu sa fille en consultation. Et dans l'interrogatoire, elle m'a dit qu'elle-même, elle a été épileptique. Je lui ai dit, bon, tiens, pourquoi je ne veux pas faire un petit groupe et tu vas venir témoigner de ton histoire, de ton vécu? Donc, chaque médecin essaie de s'organiser à sa guise, en fait.
Oui, c'est des initiatives individuelles, finalement.
Oui, oui.
Et pour conclure, docteur Sidibé, est-ce que vous avez donc un message à faire passer aux auditrices et aux auditeurs?
Oui, et surtout, toute crise n'est pas forcément une pseudo-crise, et toute crise n'est pas forcément une syncope. C'est vraiment bien de quitter pour avoir le diagnostic précis. Et aussi, si c'est une crise d'épilepsie, le message que j'aimerais passer, que ça se soigne et ça se guérit dans certains cas. Et aussi, le plus tôt possible pour le traitement, parce que le retard de la prise en charge peut entraîner surtout une résistance au traitement, des accidents qui sont liés aux crises, parce que des fois, le patient il tombe, il se blesse. Et puis, la persistance de la stigmatisation et des encéphalopathies. Donc, vraiment, autour de tout ça, comme autour de toutes ces complications, il est nécessaire de venir tôt en consultation pour qu'on puisse faire une prise en charge adéquate.
Pour prendre en charge le plus vite possible. Docteur Epelboin, est-ce que vous voulez réagir au propos du docteur Sidibé?
Oh, pas réagir, parce que tout ce qu'elle a dit est tout à fait pertinent, bien évidemment. Je m'aperçois qu'on a oublié dans les causes de crise, de perte de connaissance, le neuropaludisme. Le paludisme à Plasmodium falciparum, donc associé à une fièvre, donc qu'il ne faut pas oublier. Je voudrais souligner le fait que, en Afrique, puisqu'ici nous parlons d'Afrique, mais aussi ailleurs, mais en particulier en Afrique, les traitements au long cours sont très mal acceptés. C'est-à-dire que quelque part, on pense que la maladie doit être soignée par un traitement, par un rituel, et qu'un traitement, comme pour le diabète, comme pour le sida, comme pour l'épilepsie, où il faut prendre tous les jours ces médicaments, on a des problèmes particuliers d'observance. Et puis je voudrais aussi souligner le problème du coût. C'est-à-dire dans des milieux par définition et des individus par définition avec des ressources limitées, prendre en charge un traitement au long cours est quelque chose de difficile. Et puis pour terminer, Madame Sidibé a parlé à très juste titre de la stigmatisation des épileptiques, mais c'est un petit peu la même chose que la stigmatisation des grands malades mentaux. En fait, c'est une stigmatisation qui est différente de celle du sida. C'est une stigmatisation parce que ce sont des gens qui font peur, parce qu'ils sont en rapport avec les esprits, et que les esprits, si on attire l'attention sur soi, ça risque peut-être d'être dangereux.
Docteur Sidibé, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, en fait, par rapport à la fièvre. Non, là, je parle de crise dans un contexte non fébrile. Une fois que la fièvre est présente, là, ça ouvre le chapitre à beaucoup d'autres diagnostics. Une méningite, un neuropalu, il y en a beaucoup. Je parle après avoir éliminé toutes ces urgences dans un contexte fébrile. Et à ce moment-là, on pense à une épilepsie et c'est à ce moment-là qu'on met un traitement. Effectivement, les produits en dehors du phénobarbital, les autres, ils coûtent un peu cher pour la population. Des fois, on a les produits disponibles dans la pharmacie, et des fois, les patients ils sont obligés d'aller acheter ça en dehors de l'hôpital.
Merci beaucoup, docteur Awa Sidibé, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef du service de neurologie à Niamey, au Niger.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
Docteur Alain Eppelbois, on vous retrouve pour la dernière partie de notre échange. On a commencé à en parler avec le docteur Sidibé au Niger. Quelles sont les conceptions justement de ces crises qui sont parfois affiliées à la maladie mentale en Afrique?
Les conceptions de ces crises, c'est le fait de voir l'univers non visible où cohabitent le présent, le passé, l'avenir, les génies, les sorciers dévoreurs, les gens dotés de pouvoir, les ancêtres, etc. C'est quelque chose d'extrêmement effrayant qui vous fait tomber. Et en même temps, c'est un pouvoir qui peut être recherché parce que voir le non visible, c'est aussi assumer dans l'avenir un statut de voyant, de devin guérisseur. Mais les gens sont ambivalents. Par exemple, chez les ressortissants de la sous-préfecture de Banda Fassi où j'avais travaillé il y a de nombreuses années, un enfant qui avait ses pertes de connaissances. Mais aussi un enfant qui faisait des réflexions qu'un enfant n'est pas censé faire à un adulte, ce qu'on appellerait ailleurs un surdoué, si vous voulez, ou un enfant, mais aussi un enfant autiste. Ces enfants-là, on expliquait leurs mots par le fait qu'ils voyaient le monde non visible. Et le premier traitement, au cas où ça serait par exemple une épilepsie, c'est pas de donner des médicaments, c'est de couper cette vision du monde non visible. Et par exemple, on va faire manger à l'enfant un des aliments dans lesquels aura été mêlé, sur lesquels on aura récité une sourate appropriée, par exemple contre les djinns, où on aura écrit des formules protectrices contre les djinns sur une tablette coranique qu'on aura rincée et on fera boire l'encre, ou bien dans des pratiques anti-islamiques. On attirera l'enfant pour qu'il regarde une bassine dans laquelle on a mis du beurre de karité à bouillir avec un anneau d'argent. Et là, il est censé perdre cette vision. Et avec la crainte que une épilepsie qui dure, effectivement, qui est mal ou pas traitée, est mortelle.
Alors pour conclure, vraiment en deux mots, est-ce qu'il y a un message de prévention, de sensibilisation important à faire passer ?
Alors, là aussi, on embrasse un domaine beaucoup trop important. Si on parle de l'épilepsie et des crises à causalité biomédicale bien précise, les différents médecins que nous avons eus nous ont donné des conseils très pertinents. Si maintenant nous parlons de ces crises collectives, je dirais que ce qui importe, c'est de parler avec ces jeunes gens, d'écouter leurs souffrances, leurs revendications, d'essayer de les apaiser.
Merci beaucoup, docteur Alain Pelboin, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin et anthropologue retraité du CNRS et du Musée de l'Homme à Paris. Et tout de suite, la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Bonjour Stéphane.
Bonjour Raphaël.
Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la consommation d'amandes. Tout d'abord, pour démarrer cette chronique, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les oléagineux et pourquoi leur place grandit dans les recommandations alimentaires ?
Alors, les oléagineux, c'est une famille d'aliments qui regroupe à la fois les fruits et les graines oléagineuses. C'est pas facile à dire. Cette famille est composée de différents aliments comme les amandes, les noix de cajou, les noisettes, mais aussi les graines de tournesol, les graines de chia, de sésame ou encore du lin. Alors les fruits oléagineux ne doivent pas être confondus avec les fruits classiques, comme par exemple la mangue ou la pomme. C'est vraiment une famille d'aliments à part avec une composition très différente. Ils sont consommés soit sous forme brute, c'est les petites amandes qu'on va avoir sur la table, soit sous forme transformée, ça va être par exemple l'huile de tournesol à partir de la graine de tournesol. Alors ce qui est important aussi à savoir, c'est que cette famille d'aliments, là, sa place grandit de plus en plus parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent ces dernières années pour dire qu'il faut augmenter la consommation de fruits, de légumes, de légumineuses, mais aussi de ces oléagineux, notamment face à la réduction de la consommation de viande et aussi pour leur impact bénéfique sur la santé.
Et alors quelles sont les caractéristiques nutritionnelles des amandes ?
Alors, d'abord, toute cette famille des oléagineux présente un peu des caractéristiques communes. Ce sont des aliments qui contiennent 20 à 60% de lipides, c'est-à-dire des graisses. Donc, c'est quelque chose à pas négliger. C'est des aliments qui sont gras, donc qui auront un apport calorique important. Ils contiennent des protéines végétales de très bonne qualité. Là, la quantité varie entre 2 et 25% suivant si c'est des fruits ou des graines oléagineuses. Et enfin, les aliments de cette famille contiennent peu de glucides, c'est-à-dire peu de sucre. Et j'allais dire, le côté aussi intéressant, c'est qu'ils ont une source de vitamines et de minéraux qui n'est pas négligeable. Alors, au sein de cette famille, maintenant, si on regarde plus précisément les amandes, on se rend compte qu'elles contiennent peu de glucides, c'est-à-dire peu de sucre, qu'elles contiennent des protéines de bonne qualité, une quantité importante de graisses, mais des graisses qu'on appellera de bonne qualité, avec des, majoritairement des acides gras monoinsaturés. Et le point très intéressant pour les amandes, c'est qu'elles sont plus riches en vitamines et minéraux que tous les autres oléagineux, notamment en fibres, en calcium, en vitamineux, en riboflavine et en niacine. Et pour manger une amande, on le sait tous, quand on l'a dans la bouche, on est obligé de beaucoup mâcher. Et cet effet de malaxer beaucoup va avoir un pouvoir rassasiant assez élevé, c'est-à-dire une bonne capacité à couper la faim. Donc c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, l'amande a une bonne place dans cette famille des oléagineux.
Et quels sont les bénéfices pour la santé de la consommation d'amandes?
Alors les travaux de recherche se multiplient puisqu'on dit qu'il faut en manger de plus en plus des oléagineux, donc les gens travaillent de plus en plus dessus. Et du coup, le rôle positif est plutôt basé sur le fait que ça baisse la quantité, enfin ça prévient le risque cardiovasculaire. Il faut faire attention non plus de ne pas dire que c'est un médicament, mais ce n'est pas le cas. Et d'autres études ont démontré que l'augmentation de la consommation d'amandes pouvait jouer un rôle sur le contrôle de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang, ce qui est très intéressant, notamment pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Et enfin, la composition des amandes qui est faite de protéines, de fibres et de graisses de bonne qualité en fait un type de collation très intéressant pour remplacer des collations faites d'aliments très caloriques, aujourd'hui pauvres en nutriments, majoritairement des aliments ultra transformés. Enfin, il y a différentes études qui ont montré que l'effet de renforcement de la satiété, c'est-à-dire cet effet un peu coupe-faim, lorsqu'on consomme des amandes, permet d'éviter une prise de poids qui peut être nocive pour la santé due à des grignotages répétés.
Et donc Stéphane, en fonction de toutes ces caractéristiques, quelles sont vos recommandations?
Alors aujourd'hui, il y a un consensus international de plus en plus important qui recommande d'augmenter la consommation de fruits, de légumes, de légumineuses, mais aussi des oléagineux comme les amandes, afin notamment de compenser la baisse de consommation de viande, puisque il y a un échange de protéines, de passer des protéines de viande aux protéines d'oléagineux. Pour que la consommation d'amandes soit bénéfique pour la santé, elle ne doit pas être consommée en apéritif ou en grignotage, parce qu'on vient autrement apporter des calories complémentaires. Elles doivent vraiment être introduites dans la ration alimentaire en remplaçant d'autres aliments. Elles peuvent aussi être consommées en collation, c'est-à-dire ça va être le petit creux de 10h ou de 16h. Là, c'est très très bien, surtout si elles viennent remplacer des collations d'aliments ultra transformés, très gras, très caloriques, très salés, très sucrés, etc., etc. Cependant, comme on l'a dit plusieurs fois, il faut être prudent. C'est un aliment qui est quand même calorique, donc il faut le consommer en quantité modérée. Et il faut bien se rappeler que la consommation globale doit rester justement dans ce panier global d'aliments et que ça ne doit pas venir en plus en se disant tiens c'est un aliment qui est bon donc on va en manger un peu toute la journée, ce qui est le problème de rester sur une collation et pas sur du grignotage. Et si on arrive à amener tout ça, on a un avantage, un bénéfice santé qui est vraiment intéressant.
Merci Stéphane Besançon, je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Juliette Bourreau, Beverly Santou, Assetou Samaké et Pauline Leduc aujourd'hui à la réalisation. Demain, nous parlerons de la prostate, cette glande qui fait partie du système reproducteur de l'homme et qui peut être touchée par différentes pathologies. On attend toutes vos questions au 33 1 84 22 75 75 et on vous donne rendez-vous à 9h10 en temps universel. Et d'ici là, passez une bonne journée sur RFI.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Écoutez, écoutez.